Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
C'est bon. Je voudrais vous rendre un témoignage d'abord avant d'ouvrir notre passage, mais je vais lire le texte avant de le commenter. On va prendre dans Luc, chapitre 10, et au verset 38, c'est un passage qui est très bref, mais je pense qu'il illustre bien notre besoin, les uns et les autres, nous en tant que chrétiens, de nous rapprocher du Seigneur. Alors il y a des fois, on le dit bien, on le veut, on n'est pas toujours conscient, mais il y a des situations dans lesquelles eh bien, la nécessité se fait sentir parce qu'on n'a rien d'autre que de s'approcher de Dieu. Alors je vais lire le texte et puis je vous donnerai ce bref témoignage qui m'est personnel. Verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. La seule chose, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » J'en viens à une anecdote personnelle. C'est qu'il est question de se mettre au pied du Seigneur, comme l'exemple nous est donné à travers Marie. Et je pense qu'elle n'était pas seulement dans une disposition d'écouter, mais d'adorer, ou une préparation à adorer. Il y a 3 mois, 2 jours après l'intervention chirurgicale, le matin, dans la matinée, j'ai été saisi d'une visitation de l'esprit. Alors, je vous raconte pas ça pour dire que, parce que j'en ai très peu parlé, et je très peu parlé, et c'est très rare, mais c'est pour dire qu'il y a des moments et des temps où véritablement, eh bien, nous nous sentons tellement proches du Seigneur et lui proche de nous. Bien que je voudrais quand même rectifier, c'est un sentiment très humain, puisque le Seigneur est en nous. Le Seigneur est en nous. Et je me souviens à ce moment-là, ça durait à peu près 20 minutes, alors que j'étais ni bien ni mal, puisque quand on se réveille, c'est pas forcément, eh bien, quelque chose de simple. Mais toujours est-il que j'ai été saisi à ce moment-là par véritablement une visitation puissante de l'esprit. Et à ce moment-là, je me suis effondré. Je n'ai pas de honte de le dire, mais je me suis effondré avec des larmes de joie. Et ça a été quelque chose qui m'a aidé. Je connaissais pas la suite encore, hein, parce que la suite était à venir. Et je me souviens que, entre autres, il y avait ce texte que j'ai lu. Ce texte qui m'est revenu aussi des disciples qui étaient sur la mer et dont la barque allait couler, allait passer par le fond. Et je crois que s'approcher de Dieu, être visité par Dieu, c'est pas appuyer sur un bouton et commander le Seigneur, etc., etc. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce sont des choses qui font du bien. Ce sont des choses qui nous rassurent. Ce sont des choses qui sont rares dans la vie, enfin pour moi, hein, je suis pas un mystique ni un éthéré, mais c'est quelque chose qui est très puissant. Et je pense que quand on regarde, on est souvent des Marthes, on est tellement occupé à nos affaires, tellement occupé à toutes les choses matérielles de la vie, c'est normal. Nous sommes des hommes et des femmes, et c'est vrai, heureusement d'ailleurs, hein, qu'on a quelque chose dans la vie. Mais il y a des moments où c'est comme si le ciel s'ouvrait, et Dieu nous parle, ou tout simplement, eh bien, il nous murmure. Vous savez, le doux, le souffle doux et léger. Et il n'y a qu'une chose à ce moment-là, c'est de déborder dans la plénitude de l'esprit. Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai vécu. On ne rend pas souvent témoignage, je ne rends pas souvent témoignage, mais c'est une expérience. Alors la suite, moi, je la connais pas. Et le Seigneur la connaît. Et ce qui est vécu est vécu. Et pour nous montrer que le Seigneur est toujours là. Que le Seigneur, il est rentré dans la maison de Marthe et Marie, il était là dans cette maison. Que le Seigneur est là ce soir. Que le Seigneur, que on le sente ou on ne le sente pas, le Seigneur est au milieu de nous. Et vous savez ce que vous êtes venu faire? Eh bien, vous avez pris la bonne part. Vous avez fait comme Marie. Elle s'est assise au pied du Seigneur. Et elle écoutait parler Jésus. Vous savez ce que l'on va faire aujourd'hui? Je m'appelle pas Jésus. On va prendre sa parole. Et il y a quelques petites leçons que j'en ai tirées. Et je voudrais vous les partager ce soir, simplement. Il est entré dans un village. Et là, nous est-il rappelé qu'il y avait une femme qui s'appelait Marthe. Elle avait une sœur qui s'appelait Marie. J'aimerais que nous orientions notre méditation ce soir sur quelque chose que vous connaissez bien. C'est l'inquiétude. Et c'est curieux avec ce que je viens de vous dire. On a parlé de plénitude de l'esprit, de visitation, le Seigneur nous touche, nous bouleverse, nous fait pleurer de joie. Et puis là, bien, parce que tout ça c'est lié, vous comprenez. Je crois que les plus belles expériences spirituelles que l'on peut faire, c'est quand ça va mal dans notre vie. On touche quelque chose qu'on ne toucherait pas habituellement, c'est pas le quotidien, c'est pas la routine. Et je voudrais simplement, vous présenter simplement cette réflexion sous cette présentation. L'inquiétude vous rend-elle malade? Eh oui. Peut-être vous pourriez me répondre ce soir. Oui, l'inquiétude me rend malade. Parce qu'être inquiet, c'est humain. Être inquiet, c'est le commun des mortels. Et celui qui pourrait dire, je connais rien de tout ça, le souci, l'inquiétude. Alors il y a Marthe et Marie dans cette affaire. Et si l'inquiétude vous rend malade, écoutez la suite. Parce que Dieu a une réponse. D'abord, l'inquiétude, pourrait-on la présenter de cette manière, a des conséquences sur notre vie. Ce que j'appellerais les méfaits de l'inquiétude et du souci. Parce que l'inquiétude, elle nous vole notre paix. Et nous croyons quelquefois être bien affermis en disant, la paix de Dieu. Et on se rappelle de ses paroles, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais jusqu'à quelle limite? Et quelquefois les limites sont dépassées, à cause de la souffrance, à cause de la tristesse, à cause du chagrin, à cause de la perte, à cause de toutes sortes de choses. Quelquefois on a le sentiment de maîtriser beaucoup de choses, mais on ne maîtrise rien. Et je dis bien que l'inquiétude, elle nous vole. Il y a un voleur derrière. Elle nous vole la joie. Elle nous vole notre paix. Elle nous vole également, notre repos que nous avons dans le Seigneur. Très souvent, nous le vivons. Et elle nous vole notre liberté parce que nous ne sommes plus libres. Nous sommes préoccupés, nous avons des soucis, nous sommes accablés. Il y a quelque chose qui est récurrent dans notre tête parce que nous ne pensons qu'à ça. L'inquiétude. Il y a cette belle parole que vous connaissez, mais je pense que c'est bien de le rappeler, c'est bien de le relire. Mais écoutez, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Moi, je le sais, ça. Mais, quelquefois, ça m'échappe. Le repos m'échappe, la tranquillité m'échappe. Je suis pas venu pour parler de moi, mais je suis parlé de nous, les uns et les autres. Parce que c'est une réalité. Et combien Jésus va introduire son message du royaume de Dieu par cette parole extraordinaire quand il dit « Ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait que vous avez besoin. » Que vous avez des besoins, que vous avez des inquiétudes, mais la nourriture, le vêtement, etc., etc. Mais celui qui est le créateur de toutes choses, est-ce qu'il va vous abandonner? Non. Quelquefois, nous pouvons avoir le sentiment que Dieu s'éloigne de nous, mais non, c'est pas vrai. Je voudrais mettre en avant maintenant quelque chose, c'est que souvent, très souvent, pour nous, les hommes, les soucis proviennent de ce que nous n'avons pas encore obtenu. Nous nous inquiétons parce que nous attendons un travail. Nous ne l'avons pas encore obtenu, mais nous nous inquiétons parce que c'est normal. Donne-nous notre pain quotidien. Si j'ai pas de travail, j'aurai pas le pain quotidien pour moi et pour ma famille. J'ai rêvé de ceci et cela, mais je ne l'ai pas obtenu, alors ça m'inquiète. Et peut-être que je vais essayer de faire tous mes efforts pour essayer d'obtenir, quitte à passer par la force, je ne sais pas, ou pousser les portes. Alors ça, ce sont les soucis, les inquiétudes. Ou alors, ces soucis proviennent de ce que nous avons perdu, qui a disparu de notre vie, ou ce que nous craignons de perdre surtout. Alors on s'attache, on se cramponne en disant « voilà, c'est ça ». Et je voudrais quand même dire ce soir que Dieu peut nous donner des choses et nous les reprendre. C'est surprenant ça, hein ? Alors si c'est pour vivre dans l'inquiétude parce que finalement les choses sont là, que nous les craignons de les perdre, eh bien ça peut être un sujet d'inquiétude, ça c'est sûr. Et ça devient un état d'esprit chez le chrétien ou chez le croyant. C'est-à-dire que, quelque part, c'est une atmosphère subtile, sournoise, de peur, de crainte. Et c'est constant. Et nous pouvons dire que c'est difficile à s'en débarrasser, même si je me blinde de versets bibliques, même si je tourne les pages de ma Bible, Ancien, Nouveau Testament réunis, et que je prends des versets, que je prends des paroles de cantiques, qui sont des paroles rassurantes et réconfortantes. Mais tout ça, ça reste très limité. C'est pour ça que quand il est dit « la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ », ça vient pas d'ici, ça vient de là-haut. Hein. Et ça fait partie finalement du lot de l'humanité, et des chrétiens également. Hein. Une atmosphère de crainte de perdre, d'avoir, de perdre, ou également de ne pas avoir encore. Et ça peut devenir un lien, ça peut devenir une chaîne, ça peut devenir un esclavage. C'est pourquoi nous voyons tant de chrétiens qui sont profondément malheureux parce que comme s'ils portaient un fardeau, comme s'ils se traînaient, et comme s'ils se traînaient, ils se traînent. Et ils ont perdu leur joie et leur paix à cause de ce problème récurrent de la crainte et de l'inquiétude. Dans notre texte que nous avons lu, et on y reviendra au fur et à mesure, il y a deux femmes, il y a deux sœurs, il y a deux réactions différentes. Et il y a deux leçons à tirer de tout cela. Il y a Marthe. Marthe, elle est sympathique parce qu'elle n'est jamais en place. Elle est très active. Elle a un dynamisme extraordinaire. C'est une femme qui a eh bien, un potentiel, ça c'est sûr. Et ce jour-là, ce soir-là, il y a 12 personnes, 13 personnes à table. Imaginez-vous que ça vous arrive chez vous. Alors, si vous avez fait vos courses le matin, ça peut encore aller, quoique ça peut être juste avec des hommes qui mangent bien. Mais toujours est-il qu'elle s'affaire à sa cuisine, c'est curieux. Elle aurait pu être avec les autres, etc., mais elle s'affaire à sa cuisine et elle fait tout pour plaire à Jésus. Et je crois que dans le cœur de chacun, nous essayons de plaire au Seigneur. Eh oui. Mais est-ce que nous pensons que nous, ce que nous croyons plaire à Dieu ou plaire à Jésus, ça lui plaît vraiment? C'est le cas de Marthe. Marthe qui, finalement, eh bien là, au milieu de ses casseroles, de ses poêles, de tout cet attirail de cuisine, il y a du bruit, il y a toutes sortes de choses, on voit que c'est la vie, hein. Ça c'est sûr. C'est bien sa personnalité. Mais il y a quelque chose qui caractérise, et nous l'avons dit et nous le redisons ce soir, c'est que elle a le défaut de ses qualités. Elle est perfectionniste. Et je pense que nous pouvons avoir ce tempérament et ce caractère, tout le monde ne l'a pas, hein. Mais bon, il y a des gens foutistes, il y a des perfectionnistes. Mais en ce qui concerne Marthe, elle veut que tout soit au millimètre près. Elle veut que finalement, le plat de consistance, le hors d'œuvre, je ne sais pas si ça se passait comme ça, et le dessert, soit parfait pour plaire à Jésus. Parce qu'elle aime Jésus, hein. Parce qu'elle l'aime tout simplement. Et elle va mettre, comme on le dit en termes de cuisine, les petits plats dans les grands. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis il y a Marie également. Mais Marie, elle n'est pas là. Enfin, elle n'est pas dans la cuisine en tous les cas. Et elle, contrairement à sa sœur, elle se contente d'écouter Jésus parler. Voilà. Elle s'est éclipsée, ce qui va mettre sa sœur en colère, ou presque en tous les cas. Et le verset 41 nous dit ceci, parce que la réponse qui va être donnée, elle va certainement venir... Marthe va faire irruption dans la salle où se trouve Jésus et puis toute la petite maisonnée. Et elle va venir avec un air un petit peu fâché. Et elle va dire, mais Marthe, ou plutôt elle va lui dire ceci, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Et la réponse qui va être donnée, parce qu'il faut la souligner, Jésus va lui répondre, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et c'est ça ce qui fait l'objet de notre méditation, entre autres, c'est qu'elle va avoir une réponse assez particulière de la part de Jésus, où Jésus aurait pu lui dire, « Mais tu es un bon cordon bleu. » Vous savez ce que c'est qu'un cordon bleu hein? Rien à voir avec le ruban bleu, là, ici à Saint-Nazaire. Hein, c'est quelqu'un qui a un doigté pour faire la cuisine, hein, qui fait des mets succulents, des plats extraordinaires. Et Jésus va lui dire, « Mais tu t'inquiètes et tu t'agites. Pourquoi ?» Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agitation dans nos vies, pour des raisons ou pour d'autres, soit par intérêt ou soit, je ne sais pour quelle autre raison, pour beaucoup de choses. Et moi, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que je voudrais ajouter ceci, c'est que nous vivons dans un drôle de monde. Et ça a toujours été, hein, même du temps de Jésus, ça. Si Jésus l'a dit il y a 2000 ans, je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il pourrait encore dire 10 fois plus ça, que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'agitation et d'inquiétude. Et pourtant, on est compte des assurances, les surassurances que nous pouvons avoir, etc. Eh bien, non, c'est toujours la même chose. Et vous savez qu'il y a une notion biblique très forte dans l'Écriture sainte, c'est la notion du repos. On ne sait pas toujours se reposer. On me l'a dit ces derniers temps, je ne savais pas me reposer. Voilà. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu a pris en compte le repos du corps, le repos de l'âme et le repos de l'esprit. Et voilà un petit peu la trame qui nous conduit justement après, nous allons le voir, et bien jusqu'à Marie dans son attitude. Nous vivons dans une société à flux tendu. C'est-à-dire que il faut que une journée de 24 heures eh bien soit concentrée en 18. Et c'est vrai que c'est ce que nous voyons hein, à travers les précipitations, à travers les agitations, à travers la trépidation, à travers l'activisme et dont les causes ou les conséquences, c'est une société de déséquilibre. Je pense qu'on vivait pas hein, du temps de Jésus, on vivait au pas du cheval, c'est-à-dire très très lentement, mais aujourd'hui c'est tout à fait différent. Et ce qui amène les gens à l'épuisement, tout simplement au stress, à la dépression, où nous apercevons que, par voie de conséquence, l'un ne va pas sans l'autre, siècle de vitesse, mais siècle également de violence. Parce qu'il faut faire violence, il faut bousculer pour arriver en premier, pour arriver à faire ce que nous avons à faire. Et je suis sûr que parmi vous, vous qui travaillez en entreprise ou autre chose, ben vous savez ce qu'il en est. Et c'est un monde inquiétant parce que à ce rythme-là, il va y avoir certainement un moment ou un autre et on comprend que les gens soient malades. Et les gens sont malades, ils sont malades parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont stressés, ils sont malades dans leur âme à cause de l'inquiétude, à cause finalement du tracas, à cause des soucis de toutes ces choses. Alors tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est pas peu de choses. Peut-être pour des petites choses, mais des petites, mais des beaucoup. On peut pas faire face à tout. C'est normal, parce que on sait très bien où tout cela aboutit. Il y a un mot hein, qui veut bien dire ce que ça veut dire, le burn-out. Et aujourd'hui, c'est pas seulement à l'extérieur. Il y a des chrétiens qui passent par là. Il y a malheureusement aussi beaucoup de pasteurs qui passent par là. Burn-out. C'est comme ça, c'est notre monde. Alors devant cette présentation de ces deux sœurs, Marthe et Marie, à laquelle allons-nous donner raison? La question est là. Alors, je ne vais pas vous poser la question, on ne va pas y passer des heures et des heures, mais bon, vous connaissez naturellement bien la fin de l'histoire, mais toujours est-il, à laquelle? Il y a celle qui est dynamique, celle qui ne va pas finalement laisser les choses aller comme ça, et puis il y a l'autre qui est tranquille, qui ne bouge pas. Mais Marthe, quelque part, c'est une femme frustrée. Vous savez ce que c'est que la frustration? C'est de manquer. C'est d'avoir quelque chose qui nous manque. Et c'est impératif, c'est impérieux. Nous sommes malheureux d'être frustrés. Il y a des frustrations sur bien des domaines. Frustration d'argent, frustration matérielle, frustration sentimentale, frustration de mille et une manières, de toute façon. Et non seulement, c'est pas seulement un monde inquiet, mais un monde frustré. Et nous voyons que elle est frustrée, Marthe, de tout devoir faire et toute seule. C'est ça son problème. Elle aurait eu sa petite sœur Marie, je ne sais pas si c'était dans l'ordre de naissance, mais toujours est-il qu'elle aurait été contente en disant, bien voilà, au moins Marie est avec moi et je ne suis pas toute seule à la cuisine. Ça l'aurait peut-être soulagée, hein, c'est possible. Ah, la solitude. Ça peut faire ressortir toutes sortes de sentiments et toutes sortes de tempéraments et de caractères. Hein. Alors, nous nous apercevons que quand on regarde ça, nous nous apercevons qu'elle va faire des reproches. Mais Seigneur, est-ce que ça ne te fait rien que finalement ma sœur me laisse toute seule et puis que je fasse tout le travail? Oui. Parce que les reproches de Marc, ils sont durs. Et non seulement ils sont durs, mais ils sont cinglants. On l'a vu, et je le relis encore dans cette présentation. Cela ne te fait-il rien? Toi qui parles, toi qui es en train de tenir un oratoire, là, qui est en train de dire des choses certainement formidables, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus urgentes. Si vous voulez passer à table, si vous voulez manger, alors on va voir ce que ça veut dire. Elle est cinglante, Marthe, parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle s'inquiète. Elle a peut-être de bonnes raisons de s'inquiéter, mais elle n'a pas à s'inquiéter dans cette affaire. Je vais vous dire pourquoi, ici quelques instants. Elle a les soucis du devoir de la contrainte. Vous croyez pas que pour un chrétien c'est normal, le devoir, les contraintes, ou autrement, faut pas être chrétien, faut faire autre chose. Oui, le devoir, les contraintes, la mettent en tension, c'est-à-dire que ça l'amène à être agitée. Elle connaît un stress, on ne parlait peut-être pas de stress à cette époque, et ça va la rendre désagréable, ça va la rendre même agressive. Parce qu'elle vit une contrariété. La paix, le repos, la joie, ce sont des facteurs qui nous amènent à avoir un comportement doux, un comportement de compréhension, un comportement de paix et non pas belliqueux. C'est peut-être une observation que nous pouvons nous faire à notre propre caractère. Parce que nul n'est parfait, ça on le sait, mais nous nous apercevons que parfois, lorsque nous sommes désagréables avec les autres, c'est pas les autres qui sont la cause, c'est nous-mêmes avec nos contrariétés, nous-mêmes avec nos frustrations, parce que quelque part le fruit de l'esprit, qui est la paix, qui est la confiance, ou la foi si vous aimez mieux, la douceur, a été remplacé, submergé, et ça on ne fait pas le lien entre nos soucis, nos inquiétudes, nos tracas, nos agitations, avec finalement ce qui devrait être produit dans notre vie parce que nous sommes enfants de Dieu, ou que nous désirons, ou que nous souffrons peut-être d'être comme ça, mais nous désirions être autrement, justement, ça l'avait rendu Marthe désagréable et agressive, parce qu'elle était contrariée. Lorsque nous nous approchons du Seigneur dans notre intimité, ou lorsque nous venons dans un culte, ou nous venons dans une réunion, celle-ci ou une autre, peu importe, faisons attention. Parce qu'on peut toujours mettre sur le compte des autres ce que nous n'avons pas vu chez nous-mêmes. Il faut quelquefois regarder, jeter un regard dans notre miroir personnel. Et le meilleur miroir, c'est notre attitude, c'est notre comportement. Comment je vis les choses? Si je viens chargé d'électricité, si je viens en tension, si ma vie est une intensité de fébrilité de toutes sortes de choses, automatiquement le premier qui va me déplaire, ou que je crois qu'il y a quelque chose, alors à ce moment-là, je vais répondre comme Marthe. C'est une étude de caractère, vous comprenez? Parce que si ce texte a été écrit, il est écrit seulement dans Luc, c'est qu'il y a des raisons pour chacun d'entre nous. Je le dis et je l'ai répété souvent, c'est pas tant de faire que d'être. Et je crois que Dieu nous prépare avec ces textes et puis bien d'autres, que l'on appelle les textes de la sanctification, il nous prépare pas pour cette vie seulement, mais il nous prépare pour le ciel. Parce que dans le ciel, les Marthes seront changées. Et il n'y aura que des maris. Des gens qui auront été transformés. Trois leçons à retenir maintenant. Je vous avais dit deux, mais il y en a une troisième. Personne ne dira le contraire, Marthe est courageuse, elle est dévouée. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a des enfants de Dieu qui sont courageux, dévoués. Il y a des gens autour de nous qui sont courageux et qui sont dévoués. Ça, c'est clair. Mais on s'aperçoit que chez Marc, il n'y a pas la joie. C'est une courageuse, mais sans joie. Elle veut faire pour le mieux, mais sans plaisir de ce qu'elle fait. Alors, je ne sais pas ce qu'a été la soupe ce soir-là, mais quand on fait les choses et qu'on est en train de maugréer, et elle ne pensait qu'à sa sœur. Comment se fait-il qu'elle n'est pas là? Comment se fait-il qu'elle n'est pas à côté de moi? Elle aurait pu m'aider à éplucher les légumes, à cuire ceci ou cela, etc. Donc, elle n'a pas la joie et, en plus, elle n'a aucun plaisir. Servir le Seigneur dans ces conditions, c'est pas bien. On n'apporte pas le meilleur. Tiens, je vais vous donner un exemple. Deux frères, on parle de deux sœurs, mais deux frères, Abel et Caïn. À qui vous donneriez-vous raison ? À Abel ou à Caïn ? Quand Abel a présenté son offrande, une bonne odeur s'est élevée vers Dieu. Mais quand Caïn a offert aussi une offrande, c'était cultuel, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein. Quand Caïn a offert, eh bien il y avait comme une irritation, il y avait comme une amertume. Et il nous est dit que Dieu n'a pas pris plaisir à l'offrande de Caïn. Et je crois que dans tout ce que nous faisons, nous aussi en tant que chrétiens, veillons, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes, mais veillons à ce que nous faisons, eh bien nous le faisions dans la joie et nous le faisions avec plaisir. Sans espérer un retour, une bénédiction de Dieu. Mais nous le faisons parce que nous savons que Dieu nous aime. Parce que nous savons que c'est quelque chose que Dieu agrée. Et voyez, Marc, dans cette affaire, quand on fouille un petit peu, eh bien on s'aperçoit que c'est l'image d'une croyante, ça c'est sûr, courageuse, dévouée, on l'a dit, hein. Et son service spontané, parce que elle va pas sortir un pied de la cuisine, elle va rester dans la cuisine à faire le travail. Et son service spontané, eh bien, devient plus important à ses yeux que Jésus lui-même qu'elle reçoit dans sa propre maison. Et ça, c'est quelque chose dont il faut faire attention. Je viens à l'église pourquoi ? Je viens à l'église pour mon bien personnel, pour me faire du bien, ou je viens à l'église parce que Jésus ? Non, il est à l'église, le Seigneur ? Il est en moi. Et quand je viens à l'église, il est encore aussi en moi. Je ne viens pas, je vous l'ai dit il y a une quinzaine de jours, je ne viens pas chercher Jésus, je ne viens pas aspirer à rencontrer Jésus parce qu'il est dans l'église. Alors ne soyons pas comme les hommes de toutes ces religions qui ont déplacé le problème et qui ont dénaturé finalement l'esprit de l'évangile. Et l'esprit, parce que le Seigneur, il est à partir du moment où nous sommes convertis, que le Seigneur est bien là, est venu, que nous l'avons accepté, que nous lui avons dit oui, mais il est en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir. C'est une leçon que nous avons besoin d'apprendre. Ça, je crois que, à travers le petit vécu que j'ai eu ces derniers mois, c'est ça ce que j'ai peut-être souligné pour moi-même. Alors, si vous permettez, hein, je le partage avec vous, vous m'en voudrez pas? Il y a des beaux cantiques. Je cherche, ô Jésus, ta présence. J'aime beaucoup, hein. Et quand je me suis aperçu qu'on n'avait pas besoin de chercher sa présence, Seigneur, où tu es? Il est là, il est ici, tout ça, je cherche ta présence. Mais le Seigneur me répond. Il me dit, mais tu ne crois pas? T'as pas besoin de me chercher là, ici ou là, dans quelques coins de la salle ou autre part. Mais ta présence, ma présence, elle est au fond de ton cœur. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, mais ma présence est dans ton esprit. C'est important, hein? Et souvent, nous agissons et nous réfléchissons comme si Jésus était à côté. Quelquefois, j'en ai honte pour moi-même. Je me dis, mais Seigneur, je te cherche. Mais c'est pas moi. C'est toi qui me dis, et dis donc, je suis beaucoup plus près que tu ne penses. Je suis dans ton cœur et dans ta vie. Dans la mesure où nous entretenons notre communion avec le Seigneur, ça c'est sûr. Mais bon, ça va sans dire. Alors, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir. Et son service est plus important que la personne de Jésus, la personne de son Messie, parce que c'est une juive. Ce qu'elle va lui préparer, c'est plus important. Son offrande est plus importante que la personne de Jésus, mais le plus important, c'est Jésus lui-même. C'est pas ce qu'on peut lui offrir, c'est pas parce que nous allons venir au culte et que là, nous allons lui offrir une belle louange, une adoration. Mais bien sûr, le Seigneur agrée tout cela. Mais le Seigneur, c'est sa personne. Adorer, c'est quoi? C'est pas pour ce que Dieu donne, c'est pour ce que Dieu est. Et ce que Dieu est, il veut que son image soit en moi. Mais il était dans sa maison. Mais par contre, il n'y avait plus que la cuisine qui comptait pour Marthe. Deuxième point, deuxième leçon qui est importante. Elle a certainement son sens. Je voudrais simplement vous dire que l'ennemi est passé maître dans l'art de nous occuper soit à travers nos pieds ou nos mains, soit à travers nos pensées et nos cœurs et bien d'autres choses. Tout ce qui fait notre constitution d'homme sur cette terre. Il nous occupe. Il nous occupe à nous tenir préoccupés, à nous tenir inquiets, à nous tenir en souci, à nous tenir dans l'interrogation, à nous tenir dans des questionnements qui n'en finissent pas. Et combien nous avons eu l'occasion d'être confrontés avec des frères et des sœurs qui viennent et qui reposent toujours les mêmes questions et ceci et cela, mais qui ne sont jamais parvenus à trouver des solutions. Et ça, moi, je dis que il y a notre tempérament, ça c'est sûr, mais il y a une exploitation de l'ennemi. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et fermez la porte à celui qui veut s'immiscer dans notre vie. Alors, c'est nos mains, nos pieds, c'est-à-dire c'est tout ce qui fait, eh bien, notre mouvement, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi notre âme, notre vie intérieure. Et il veut finalement, eh bien, nous occuper à la cuisine. Excusez-moi, hein, l'expression. Comme Marc était bien préoccupé, elle n'avait pas pensé à autre chose que finalement, eh bien, il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait être intéressant, ce que Marie avait choisi. Et nous avons nos cuisines à nous. Vous m'excuserez de parler comme ça. M'en voudrais pas. Pardonnez-moi, je suis malade. Ma belle excuse. Non, non. Mais toujours est-il que nous avons nos petites cuisines à nous. Excusez-moi, mais quelquefois nous sommes affairés à des choses et le Seigneur nous dit, mais si tu tournais les regards un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, tu verrais qu'il y a autre chose. Mais tu t'es renfermé dans quelque chose. Et elle s'était renfermée dans sa cuisine. Et cela nous prive de l'essentiel, alors que Jésus est là. Il est dans sa maison. Ce même esprit nous tient préoccupés. Mais il nous détourne de la vraie paix, de la vraie vie, et surtout du vrai but. Parce que le vrai but, c'est pas de nourrir Jésus ce soir-là. C'est Jésus lui-même. Parce qu'il y a une question de nourriture dans cette affaire. Marthe est dans sa cuisine en train de préparer certainement des petits plats, et Jésus est en train de préparer un repas céleste. Vous y aviez pensé à ça? Eh oui, nourriture et nourriture. Nourriture pour le corps et nourriture pour l'âme. Et le vrai but, c'est Jésus. Parce que ce que je vous disais précédemment, c'est que Jésus n'est pas entré dans cette maison pour manger, mais il est venu préparer une table. Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. Et ça, Marie, elle l'a compris. Il était venu préparer un repas. Il était déjà venu donner les prémices du repas des noces de l'agneau, si vous voulez, on peut le dire comme ça. Avec des mets succulents, nous dit le prophète Ésaïe. Oui, parler du royaume de Dieu. Et cet ennemi convainc. Non seulement il nous préoccupe, non seulement il nous détourne, mais également il nous convainc. Mais pas tout le monde. Il convainc les inquiets. Il convainc les peureux. Il convainc ceux qui, quelque part, eh bien, sont toujours assis entre deux chaises, entre la foi et l'incrédulité, où là, eh bien, ils sont assis sur le siège du doute. Alors, il finit par les convaincre de s'intéresser à réussir consciemment la recette. Elle est en train de préparer la cuisine. Elle ne voulait pas qu'il y ait une sauce qui tourne, etc., etc., hein, pour être satisfait d'elle-même en disant « j'ai servi un bon repas, j'ai réussi ». Petite pointe d'orgueil, mes frères et sœurs. Il faut bien dire que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est pour sa gloire et pas pour la nôtre. Parce qu'autrement, on est mal parti. Et ça ne sera jamais agréé par le Seigneur. Les œuvres de la chair sont les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit sont les œuvres de l'esprit. C'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est comme ça que je suis aussi moi-même en apprentissage. Oui, petite pointe d'orgueil de dire, ah bien, au moins Jésus était content. Et puis l'ennemi, enfin, par-delà qu'il nous préoccupe, par-delà qu'il nous détourne, par-delà également, eh bien, qu'il convainc les inquiets, eh bien, nous nous apercevons que l'ennemi s'évertue à nous décourager dans ce chemin, à nous décourager d'être seul dans la cuisine. L'isolement, vous comprenez? Et vous savez, les inquiets, les tourmentés, les gens qui font du stress, ils sont tout seuls. Et pourtant, ils ont le Seigneur. Et nous avons tous le Seigneur. Et nous sommes en train de nous tourner en disant, mais au monde, il n'y a que moi qui souffre. Au monde, il n'y a que moi qui suis comme ça, etc., etc. Mais allez, soyons raisonnables. Il y a des milliers, il y a des millions de gens qui vivent ce que nous vivons tous les jours, mais ils ne le disent pas. Alors, au lieu de le dire aux autres, on ferait mieux de le dire à Dieu. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et elle était isolée dans sa cuisine, elle s'était isolée dans sa cuisine. Et peut-être nous culpabiliser de ne pas en faire assez ou assez bien. Il y a des chrétiens qui sont toujours en train de se tourmenter. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Et ceci, cela, etc., etc. Frères et sœurs, c'est pas une vie. Moi, je voudrais vous dire, c'est pas une vie. On a besoin de la liberté. La liberté de l'esprit, la liberté à un affranchissement et de pouvoir respirer le grand air du ciel. Oui. Pas assez et pas assez bien. Ou pas assez bon, puisqu'on parle de nourriture. Culpabiliser que personne ne remarque. Et ça, c'est aussi un petit peu d'orgueil. Que personne ne nous remarque ou n'apprécie nos efforts. Mais nos efforts, ils sont faits devant Dieu. Et le seul effort que nous avons à faire devant Dieu, c'est de croire. C'est pas un effort de muscle. C'est pas un effort de volonté ou de ceci et cela. Non. C'est de croire. Parce que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et à partir du moment où je me sens le plus faible possible, c'est là où Dieu va me donner l'énergie dont j'ai besoin. On n'aime pas être faible, hein. C'est terrible. Quand vous pouvez plus marcher, quand vous pouvez faire grand chose ou plus manger, c'est terrible, hein. C'est fou, hein. C'est fou ce que ça peut basculer d'un jour à l'autre. Mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, eh bien, quoi qu'il en soit, on est porté. Et c'est là peut-être que nous faisons le plus de choses. Et puis le troisième leçon que nous pouvons aborder, ça il faut savoir, c'est que Dieu accorde le plus de valeur, accorde plus de valeur à notre attitude de paix, de confiance et de douceur, d'abandon, ou véritablement comme Marie, parce que là on va finir sur Marie, qu'à nos actions fiévreuses et nos actions fébriles. Écoutez ce qu'il nous est dit à un moment donné, parce que faut pas s'énerver, hein. De moins en moins. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il nous est dit cette parole, et je l'ai citée tout à l'heure, mais je la cite encore, c'est que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais écoutez, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oui. Et je pense que quand il s'agit de s'abandonner entre les mains de Dieu, eh bien c'est ça ce qui est important. L'attitude anxieuse dont nous sommes parfois, eh bien, les auteurs et les victimes en même temps. Notre société stressée, voire même chez les enfants de Dieu. Où pourtant le meilleur que nous souhaitons apporter à Dieu est gâché. Parce que finalement, eh bien, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas ces conditions. C'est pas tant ce que nous faisons qui est important pour le Seigneur. C'est ce que nous sommes. Toujours l'être. Pas l'avoir, mais ce que nous sommes. Et le verset 42 nous dit ces paroles, et là nous avons la belle réponse de Jésus. Une seule chose est nécessaire. Nécessaire, vous vous rendez compte? Nécessaire! Le reste, c'est superflu, on pourrait le dire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et Jésus va donner raison à Marie. Oui. Et pourtant, il y avait un beau dévouement, il y avait un beau geste, il y avait un cœur aussi derrière, eh bien, ce que avait préparé Marthe, mais c'est les conditions intérieures qui sont les plus importantes. Ne devenons pas, nous, en tous les cas, des chrétiens automates ou automatiques, qui faisons les choses machinalement, parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, il y a besoin d'un renouvellement de l'esprit dans notre vie. Il y a besoin de toucher quelque chose que nous n'avions pas vu. Souvent, nous marchons comme des aveugles, et nous cherchons, et nous nous apercevons que finalement, eh bien, puisque nous sommes aveugles sur certaines choses, ben, nous ne pouvons pas les identifier réellement. Jusqu'au moment où le Seigneur nous conduit et nous ouvre les yeux. C'est comme ça qu'on progresse. Et moi, je pense que pour progresser, c'est surtout l'attitude, eh bien, de Marie. Parce que, en entendant cette parole, il va y avoir une œuvre qui va se faire dans son cœur. Alors, Marie a choisi la bonne part. Elle est assise, tranquille. Elle est silencieuse aussi. Alors qu'il y a du bruit dans la cuisine, ça claque de tous les côtés, on entend les gamelles, on entend toutes sortes de choses. Ça fait du bruit, hein. Et elle a pris le temps d'écouter. Elle a pris le temps d'adorer. Parce que le ressenti que nous avons devant une parole, qui est la parole de Dieu, ça nous amène dans notre cœur, surtout si nous avons des besoins, des grands besoins, de grandes aspirations, en entendant de dire « Merci Seigneur, je t'adore, tu es merveilleux ». Et c'est comme ça que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, est accompagnée des dons spirituels. particulièrement d'une parole de connaissance, d'une parole qui va nous amener dans le dévoilement de la volonté de Dieu pour notre vie personnelle. Alors à ce moment-là, nous pouvons dire, mais je t'adore Seigneur, tu es merveilleux. Ce sont souvent des petites choses qui jalonnent notre vie, qui jalonnent notre quotidien, même lorsque nous avons les larmes aux yeux. Et à un moment donné, on se dit, mais Seigneur, je m'en étais pas aperçu, mais tu étais bon, tu étais merveilleux. Tu m'as montré le chemin, tu as ouvert la voie. Oui. Seigneur, c'est extraordinaire de découvrir tes œuvres merveilleuses pour moi. Et là, il faut être assis, silencieux et laisser les choses se faire. Et vous savez, Marie, elle rend un formidable témoignage d'un cœur qui aspire, qui a besoin d'une autre nourriture, autrement plus bénéfique. C'est la nourriture de l'âme, et de l'âme particulièrement agitée, l'âme qui est troublée, pour qu'elle retrouve le repos, qu'elle retrouve finalement sa communion paisible avec Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça ce soir, je ne sais pas. Moi, je suis venu avec ce message parce que je l'avais à cœur. Maintenant, peut-être que je prêche que pour moi, hein, c'est possible. Hein. Moi, ça me fait du bien. Au moins, je suis d'accord avec moi, c'est déjà pas mal. Mais toujours est-il que c'est une parole qui vous est donnée. Si vous êtes troublé, si vous êtes agité, si vous avez une vie qui ressemble beaucoup plus à celle de Marthe et que vous vous inquiétez, que vous êtes dans le tracas, dans le souci, la préoccupation, ceci et cela, moi je voudrais vous dire que cette parole, elle est pour vous, recevez-la. Parce que le Seigneur vous tend la main et vous dit, je ne veux pas que tu restes dans cet état. C'est pas une vie de vivre dans l'inquiétude, de vivre dans le souci d'une attente d'une chose, alors que le Seigneur sait très bien la donner, mais il va nous la donner lorsque nous serons calmes et reposés. C'est pas à travers le tonnerre, c'est pas à travers un vent violent. Vous savez, un souffle doux et léger. Eh, est-ce que nous sommes prêts à tout cela, hein? Ça, c'est comme ça. Alors, à nos récriminations, à nos agitations, à toutes nos angoisses, celles de toutes les Marthes malheureuses. Alors, quand je dis Marthe, ça peut être au masculin aussi, hein. On va l'appeler Martin, tiens. Comme ça, Marthe et Martin, je ne sais pas. Il y a un sens masculin à Marthe, non? Marty. Vous connaissez le mot Marty? Pas Martinet, Marty, parce que le Seigneur, c'est pas Martinet, hein. Le Seigneur vient avec sa grâce et sa bonté pour nous faire du bien. Ouais. Marthe, toutes les Marthes malheureuses, tous les hommes qui sont dans la même situation que Marthe, eh bien, qu'elles donnent la priorité finalement à savoir se reposer, prendre le temps de quitter la cuisine, façon de parler ou autre chose, hein. Et de prendre ce temps indispensable et ensuite entrer dans nos obligations humaines, dans nos obligations professionnelles, dans nos obligations d'une manière ou d'une autre, sereinement et paisiblement. C'est ça la leçon qui nous est donnée. C'est pas le contraire, c'est pas de m'évertuer à essayer de plaire à Dieu d'une manière ou d'une autre et puis en faisant mille et une choses. On est en train de se tuer en ce moment, hein. Ça c'est sûr. Moi je le vois bien même au niveau du ministère pastoral. Faut faire ceci, faut faire cela, faut révolutionner le monde. Ben vous savez ce qu'on va, on va remplir les cimetières de pasteurs, hein, parce qu'on en demande beaucoup actuellement, hein, de trop, hein, avec des choses qui n'ont plus rien à voir avec la vie de l'esprit. Je suis révolté. Non, mais c'est vrai. Et dans le monde professionnel, c'est la même chose. Alors si dans le monde professionnel c'est une chose, dans l'Église si c'est comme ça, je dis c'est pas possible, hein. C'est à la marche de l'esprit que nous devons aller. Tout simplement. Alors à ce moment-là, si nous avons pris les choses, de nous tenir devant le Seigneur, de nous laisser nourrir de cette parole, mais nous pourrons aborder sereinement, finalement, eh bien toutes les obligations, tous les devoirs, toutes les contraintes de la vie, mais d'une autre manière, dans la confiance, dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que le Seigneur nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Et je demandais à Gérard, si vous voulez bien simplement demander à Dieu qu'il nous visite, les uns et les autres, et que nous puissions ouvrir tout grand notre cœur et dire au Seigneur, mais Seigneur, tu n'es pas à côté de moi, mais tu es en moi, et tu me donnes véritablement d'être comme Marie, aux pieds de Jésus.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.